Il a été gardien de but du Canadien de Montréal pendant quelques saisons. Il a joué très, très longtemps au hockey. Et on tenait à lui parler parce que ces gars-là, souvent, ont de très bonnes histoires à raconter. Et le défi, ça a été de le retrouver. Parce que quand j'ai fini par l'appeler, il m'a dit, il revenait du Grand Nord. Il semblait très loin. André Racicot, comment ça va?
Ça va bien, vous-même?
Ben oui, ça va bien. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu fais exactement de ces temps-ci?
Ben moi, je travaille pour la société minière Agnico-Eagle, puis la mine qui est un producteur de mine d'or, qui est située au Nunavut. Fait que je pars pour des rotations de 14 jours là-bas, puis je reviens chez moi 14 jours.
OK. Donc, on est très, très loin présentement des patinoires, là.
Oui, exactement. Pas loin du froid, mais loin des patinoires, oui.
Ben, André, quand tu as mis un terme à ta carrière, ça fait quoi, déjà une vingtaine d'années? Il y a plein de gars qui décident de rester impliqués dans le hockey, qui vont dans le coaching, qui font du recrutement. Toi, tu as décidé de tirer un trait complètement là-dessus?
Ben, pas un trait complètement, parce que j'ai eu deux garçons, puis que j'ai été beaucoup impliqué dans le hockey mineur avec mes garçons. Mais m'impliquer là, dans un niveau plus élevé professionnel, non, ça m'intéressait pas. Là.
Pourquoi?
Ben, je sais pas. J'avais besoin, comme quand j'ai terminé, j'avais besoin un peu de prendre une pause du hockey, puis de m'éloigner un peu de ça, puis de pouvoir le faire au niveau mineur avec mes enfants, ça me comblait amplement.
T'étais correct avec ça. Parce que quand t'as pris ta... Puis je regardais, évidemment, on t'a connu avec le Canadien de Montréal, André. On va parler un peu de ça, évidemment, la Coupe Stanley, tout ça en 93. Mais je regardais après le Canadien de Montréal et il y a une enfilade là, assez incroyable de clubs pour lesquels tu as été engagé. Je pense que j'ai compté 17 équipes différentes dans les circuits mineurs. C'est beaucoup, beaucoup de hockey, beaucoup de voyagements. Comment tu as vécu ces années-là à te promener un petit peu à gauche et à droite partout là?
Bon, c'est sûr que ça a été difficile de pas trouver une place stable après le Canadien, mais tu sais, j'avais encore la passion dans ce temps-là, fait que je continuais, puis tu sais, je faisais du hockey depuis l'âge de 4-5 ans, fait que c'était difficile de, même si t'es pas au niveau de la Ligue nationale, c'est difficile de dire une journée, bon ben là j'arrête, c'est terminé. Puis après ça, ben j'ai eu une opportunité d'aller en Russie, finir ma carrière, puis c'était pratiquement comme ça là, que j'ai terminé mon séjour professionnel au hockey.
Oui, j'allais t'en parler en 99-2000. Ça, c'était avant la KHL, officiellement. Ça s'appelait pas comme ça encore. J'ai du mal à prononcer le nom du club, André. comment ça s'appelait?
C'était Nizhny Kamsk, FT Chemik. C'est une société de, je pense, de filtration de pétrole, quelque chose de la sorte. C'était une petite ville à peu près à, je dirais peut-être un 3 heures de vol de Moscou, là, en t'en allant vers l'est. C'était un petit marché où j'étais, puis mais ça a été une super de belle expérience, par exemple.
Oui. C'était quoi le quotidien d'un joueur de hockey dans ce coin-là de la Russie?
Ben dans ce temps-là, aujourd'hui, je sais pas comment ça fonctionne à KHL, mais dans mon temps, à moi, c'était ben première des choses, c'est que tu passais ta journée complète avec l'équipe. Tu te levais le matin, tu déjeunais en équipe, tu allais pratiquer. Ils te ramenaient chez toi pour à peu près une heure. Après, ils venaient te rechercher, tu allais dîner en équipe. Tu retournais pratiquer une deuxième fois dans la même journée. Puis après ta pratique, tu allais souper en équipe. Puis après ça, on te ramenait à la maison, puis on recommençait le lendemain. C'était pas mal ça qui était la routine dans mon temps en Russie. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, ça a dû changer là, avec la KHL.
Ouais, c'était très militaire pratiquement, là.
Oui, c'était ben ça ressemblait à ça exactement. C'était assez difficile au début. Je trouvais ça difficile un peu, mais à un moment donné, tu prends le beat un peu de ce système-là, puis ça a été quand même une année enrichissante.
Pour combien d'argent, André, te souviens-tu?
Dans ce temps-là, je pense que ça devait jouer à l'entour de 100 000 Américains.
OK. Et il n'y avait aucune offre nulle part de la Ligue nationale de hockey pendant ces années-là, André?
Non, zéro. Puis le temps que j'étais en Russie, un moment donné, j'étais classé le deuxième meilleur gardien européen. Puis Non, il y a rien, c'est rien passé par après. Là. C'est sûr que je t'ai rendu aussi assez vieux, fait que.
Ouais.
T'arrives enfin, là, t'as plein de jeunes là, qui poussent de partout, là, fait que les clubs sont vraiment plus intéressés à développer des jeunes.
Et puis je regarde au moment où on se parle la liste des clubs pour lesquels tu as joué après le Canadien. Il y a des noms assez spectaculaires. Les Mocassins de Monroe, hein, André, explique-moi donc, c'est où ça?
C'est en Louisiane.
Ah oui, OK. Oui,
c'était la Western Pro Hockey League dans le temps, là, qui était une genre de. C'était comme la East Coast League, mais de l'Ouest.
Ça devait être assez folklorique.
Ben c'était le fun. J'ai eu quand même du plaisir là-bas, rencontrer des gens intéressants. Puis tu sais, de jouer au hockey dans un environnement où il n'y a pas de neige, il n'y a pas de froid aussi, ça faisait spécial.
Oui, et tu as eu les bisons aussi, les bisons de Basingstoke.
Oui, en Angleterre, justement, quand j'étais à Monroe, j'étais allé terminer une saison en Angleterre.
Wow.
Pour à peu près un mois et demi, deux mois.
Et parle-nous un peu de. Parce que là, en Angleterre, on n'associe pas du tout le hockey avec l'Angleterre. Je sais qu'il y a des équipes, là, mais quand même, c'est pas un lien qu'on fait naturellement. Comment ça s'est passé, ça, jouer au hockey en Angleterre?
Ben, c'était bien correct. Je dirais que majoritairement, les équipes étaient bâties de joueurs canadiens.
Okay.
Fait que c'était des joueurs que, mettons, j'avais joué contre dans la Ligue américaine, une coupe dans la Ligue nationale. C'était quand même un calibre là, assez intéressant. C'est sûr que de jouer sur des patinoires de grandeur olympique, ça fait différent, par exemple.
Ouais, puis, tu sais, on parle de ça, puis là, tu as fini, je pense, ta carrière dans le semi-professionnel quand tu es revenu au Québec. Fallait vraiment, André Racicot, que tu aies un amour assez profond du hockey là, pour faire autant d'équipes, autant de ligues, des pays différents, des marchés différents. Fallait vraiment que ce soit pour l'amour du hockey.
Ouais, c'était pas pour l'argent, ça c'est clair. Tu sais, je sais pas combien de parties de hockey j'ai pu jouer dans la rue quand j'étais jeune. C'était sans arrêt, là. Été, hiver, tu sais, on jouait au hockey dans la maison, on jouait au hockey dans la rue, on jouait au hockey sur la patinoire extérieure, on jouait au hockey mineur. Tu sais, ça a été, là, disons, une grosse partie de ma vie.
Ouais. Et puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement, tu as décidé en 2004-2005 que c'était terminé?
Ben, il fallait que je passe à autre chose. Il fallait que je me donne à moi une stabilité. Puis, tu sais, moi, ma conjointe, on voulait avoir des enfants. Fait que, tu sais, je recherchais ça, une stabilité. Il fallait que je sois capable de m'ancrer en quelque part puis de recommencer une autre vie.
Ouais. As-tu gardé tout? Je sais qu'il y a des athlètes qui gardent un chandail de chaque équipe. Ça ferait beaucoup de chandails. Est-ce que tu les as tous gardés?
Non. Non.
Ça aurait été une pas pire collection, ça.
Ah ouais, j'imagine, mais non, je suis pas très collectionneur.
OK, puis t'as fait des marchés aussi qui, tu sais, à l'époque, quand t'allais là, c'était pas du tout des marchés de hockey qui sont devenus des marchés de hockey. T'as joué en Arizona avant, évidemment, que ben là, ça existe plus, mais il y a eu du hockey là-bas à un moment donné. T'as joué à Vegas également avant la Ligue nationale de hockey. Est-ce que tu pouvais voir un peu que ces équipes-là allaient un jour devenir des villes de la Ligue nationale?
Ben, dans ce temps-là, j'aurais dit que ça aurait été difficile, mais quand même, à Phoenix, on était le plus ferme des Kings de Los Angeles. Il y avait quand même ce qu'on appelle un fanbase qui se présentait à tous les matchs. Puis la Ligue, dans ce temps-là, moi, c'était la Ligue internationale. C'était comme la Ligue américaine, mais encore une fois, l'ouest du pays. Puis on allait dans les arénas où il y avait, tu sais, quand même beaucoup de spectateurs, comme mettons à Salt Lake City, où il y a une équipe présentement. On allait là et il y avait quand même beaucoup de fans de hockey. Fait que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la Ligue nationale qui a vu un potentiel pour aller développer ces marchés-là.
Ouais. Mais écoute, André, on va prendre une petite pause et évidemment, il faut absolument te parler du Canadien de Montréal, de la Coupe Stanley, comment tu as vécu tout ça. Alors, ne bouge surtout pas, André Racicot, et on revient après la pause, tout de suite après. On poursuit notre discussion avec André Racicot, ex-gardien de but du Canadien de Montréal, évidemment. Et André, on a reçu à l'émission les Vincent Danfous. Tout à l'heure, on parle à Donald Dufresne, demain Guy Carbonneau. Et tous les joueurs de 93, André, nous disent la même chose. Je vais jamais oublier ça. C'est un événement qui marque à jamais. Pour André Racicot, c'est exactement la même chose, je présume?
Ben, c'est certain. Moi, j'ai grandi en regardant le Canadien de Montréal, un petit gars de l'Abitibi. On manquait jamais une partie le samedi soir du Canadien. Puis de pouvoir même m'imaginer d'avoir pris part à une partie du Canadien, c'est quelque chose quand même d'assez irréaliste pour moi. Là, c'est un rêve d'enfant comme n'importe quel jeune là, qui rêve de jouer au hockey dans la Ligue nationale. Puis de pouvoir gagner une Coupe Stanley avec le Canadien, ça a été mémorable. Là. C'était un moment incroyable.
Comment c'était d'être celui qui était l'adjoint de Patrick Roy?
Ben, c'était correct. C'est sûr que d'être adjoint, peu importe dans quelle équipe tu joues, c'est pas satisfaisant. Mais c'était correct. J'étais arrivé jeune avec le Canadien. J'avais quand même un modèle à regarder, à apprendre. Puis on avait aussi un excellent entraîneur des gardiens de but en François Allaire. T'sais, j'ai appris énormément là, mes premières années là, avec le Canadien.
On a entendu des histoires. Je pense que c'est quelques joueurs qui ont dit ça au fil des années, André, que à l'époque, Patrick Roy prenait beaucoup de place. Puis là, essentiellement, il prenait le calendrier du club puis il disait « Bon, moi, je vais gauler là. » Est-ce que c'était pas mal lui qui décidait de qui allait devant le filet, finalement?
Ben, moi, quand je suis arrivé, j'étais pas impliqué dans les décisions de qui allait jouer, qui allait pas jouer. Là. Fait que je sais pas comment ça se passait avec lui, puis Pat Byrne, puis après Jacques Demers. Moi, dans ce temps-là, ben, j'essaie de travailler le plus fort possible puis d'aller chercher le maximum de matchs possibles aussi.
Ouais.
Fait que comment ça se passait, s'il prenait le calendrier ou pas, moi, je suis pas au courant de ça.
OK. Et comment t'as vécu quand même les séries? Malheureusement, t'es pas impliqué directement, mais t'es là, pareil, t'es là en cas où il se passe quelque chose. C'est satisfaisant, bien sûr, tu pars avec une bague, mais en même temps, t'étais pas sur la glace. Comment t'as vécu ça?
Ben, c'est sûr que tu veux toujours être l'homme de la situation. J'ai eu quand même la chance d'embarquer dans la série contre Québec, mais après, ça a tellement déboulé vite, puis le club performait tellement, puis tout le monde jouait très bien. Que tu essaies de quand même d'apprendre puis de savourer le plus que tu peux là, les séries, surtout que les deux années d'avant, ça avait été quand même difficile. On s'était fait éliminer contre les Blues de Boston les deux dernières années. C'est difficile à Montréal quand tu gagnes pas. L'atmosphère est pas terrible. Puis boum, Jacques Demers arrive, change l'atmosphère de l'équipe, la façon de se comporter, puis l'ambiance dans la chambre, tout avait changé. Fait que, tu sais, ça a été quand même là, une grosse expérience.
Puis t'as parlé, évidemment, l'ambiance, mais à Montréal, il y a les attentes constamment. Et on avait à l'émission ici cette semaine Richard Sévigny, qui nous disait que quand t'es un gardien de but du Canadien de Montréal, c'est une autre affaire. C'est là, il y a une certaine pression qui est là. Est-ce que ça, tu l'as ressenti, cette pression-là?
Ben, c'est certain. Moi, j'arrive où ce que, tu sais, Patrick avait gagné une Coupe Stanley 86. Il avait gagné déjà plein de trophées. Vizina, Jennings, aller en finale de la Coupe Stanley en 89. Moi, j'arrive après. Fait que, tu sais, je pouvais juste imaginer un spectateur qui payait son billet pour aller au Forum pour voir Patrick Roy, qui était une étoile de la Ligue nationale, puis arrivait, puis c'est pas lui qui était dans le filet. Fait que je pouvais juste m'imaginer comment il pouvait être exigeant envers le deuxième gardien de but.
Ouais. Puis à un moment donné, il est arrivé le... Je vais même pas le répéter en nom, André, parce que ça me tente pas, mais il y a quelqu'un qui a sorti un surnom que je trouve à ce jour très déplacé. Je pense que c'est venu d'un média anglophone, là, je me trompe pas. Comment tu as vécu ça, ces moments-là? Parce que, tu sais, en plus, tu viens de le dire, là, toi, tu es le deuxième, il y a des attentes, il y a de la pression. Puis en plus, il y a ça qui arrive. Comment tu as vécu ça?
Bon, c'est sûr que c'est pas intéressant. Je pensais pas que je méritais ça. Si on regarde mes statistiques, on compare les statistiques des autres gardiens de ces époques-là, j'étais dans la moyenne. Là. J'étais pas en bas, j'étais ni en haut, ni en bas. J'étais dans la moyenne. Puis, tu sais, j'ai quand même eu une grosse saison, la saison de la Coupe Stanley. Cette saison-là, j'ai eu une très bonne saison.
Ouais.
Fait que, tu sais, t'essaies de passer par-dessus. Puis, tu sais, ce qui était important, c'est que les joueurs avaient confiance, mettons, quand moi, j'étais dans le filet.
Okay.
Le reste, tu contrôles plus rien après.
Et je demande toujours la même question, la bague, elle est où?
La bague était vendue à l'encan.
Ah, c'est vrai?
Ouais.
Ah ouais? Pourquoi?
Ouais. Ben, un moment donné, j'étais au Centre Bell, puis dans le temps, dans le salon des anciens, puis M. Béliveau, il était là. Puis ça a donné que je jasais avec M. Béliveau, parce que ça s'était parlé dans les journaux que M. Béliveau, il voulait donner ses bagues à ses petits-enfants ou ses enfants, puis qu'en fin de compte, ils ont dit non, tu sais, on veut pas l'avoir. Fait que lui, il avait décidé de les vendre pour pouvoir donner l'argent à ses petits-enfants ou faire profiter d'une façon ou d'une autre. Je trouvais que, tu sais, puis comme moi, je suis pas très collectionneur, pas très matérialiste, ben, tu sais, je suis bête de profiter de cet argent-là, une bague qui va, tu sais, qui était dans un coffret de sûreté à la banque, que je la sortais pas, je la mettais pas. T'sais, l'important pour moi, c'est mon nom et sa coupe cette année, puis il va rester là indéfiniment.
Et ça s'est vendu combien, cette bague-là, André?
À l'encan, je sais pas. Moi, je l'ai vendue à un encanteur, puis après ça, comment elle s'est vendue à l'encan, j'ai aucune idée.
Ah oui, OK. Puis est-ce que tu as gardé la petite carte que Jacques Demers avait remise à tous les joueurs?
Ouais, ça, je l'ai dans quelque part, mais je la trouve pas, parce qu'à un moment donné, il y avait un entraîneur de la Ligue junior majeure du Québec que j'avais joué avec quand je jouais junior, puis qui m'avait demandé c'était quoi qu'il avait décrit, puis j'avais tenté de la retrouver, je la retrouvais pas, là. Je venais de déménager, puis je sais pas où ce qu'elle avait pris le bord, mais oui, je l'ai en quelque part, cette carte-là encore.
Bon, au moins, ça c'est bon. Tu nous feras signe si jamais tu la retrouves. Je pense qu'il y a juste Guy Carbonneau qui a encore la sienne. On fouille ça, là. C'est un gros dossier, là.
ça se peut. Je pense que c'était comme les 10 commandements de Jacques, là. Il me semble que c'était ça qui était comme le. Là, t'avais comme 10 points là, qui disaient, mettons, quoi faire sur la glace ou tout. Il y avait plein de choses. Là.
Ouais. Et après, André, après 93, ben, t'es encore avec le Canadien de Montréal. Malheureusement, t'as pas joué beaucoup et malheureusement, après ça, ça s'est terminé pour toi dans la Ligue nationale de hockey. Comment ça s'est terminé exactement avec le Canadien? Te souviens-tu?
Ben, l'année après la Coupe Stanley, on a commencé l'année, puis tu sais, j'ai commencé l'année, puis je me sentais encore plus solide que l'année d'avant. Puis là, j'ai été blessé. Je me suis blessé au genou en début de saison. Je pense à la troisième partie ou quatrième partie, j'ai été blessé. Puis ma réhabilitation, elle s'est pas faite comme j'aurais espéré ou comme elle aurait dû être, ou peu importe. Puis, tu sais, j'avais l'impression que, tu sais, il y avait des choses qui se passaient, que j'étais peut-être pas le candidat que, mettons, Jacques Demers voulait vraiment avoir, ou tu sais, peu importe, là, mais j'ai senti que j'étais plus un siège éjectable, puis que ça a été comme la porte qui s'est ouverte là, pour un peu se débarrasser de moi.
As-tu tenté de trouver un contrat ailleurs dans la Ligue nationale?
Ben, j'avais signé un contrat avec les Kings de Los Angeles, c'est là pour ça que j'étais allé jouer à Phoenix. Ça a été l'année qu'il y a eu le premier lockout.
En 95,
oui. Oui, en 95, que la Ligue nationale a recommencé juste au mois de janvier. Puis quand j'avais signé avec Los Angeles, mais après ça, Los Angeles, c'était revenu de bord, puis était allé signer Grant Fuhr. Fait qu'il y avait Grant Fuhr puis Kelly Rudy qui venait d'emmener son équipe à la finale de la Coupe Stanley, mettons, 2 ans passés. Fait que je me suis ramassé à Phoenix dans la Ligue américaine, puis dans la Ligue internationale, excusez-moi.
Ouais.
Et après ça, ben j'ai pas eu comme vraiment d'opportunité là, de remonter.
OK. Puis là, ben c'est ça, tu es quand même. On en parlait tout à l'heure, tu t'es rendu jusqu'en 2004-2005. Tu as fini ça dans le semi-pro, je pense, hein, ici au Québec, c'est ça?
Oui, c'était par plaisir de les jouer dans le semi-pro. T'sais, il y avait quand même d'excellents joueurs qui, justement, qui avaient joué un peu dans la Ligue nationale, beaucoup de Ligue américaine, beaucoup de Ligue internationale. C'était quand même un bon calibre. Puis ça me gardait un peu à jouer au hockey aussi, là, mais quand même, il fallait que je me trouve quelque chose de stable, un travail, puis de passer à autre chose.
Et le travail que tu fais maintenant, est-ce que c'est ce que tu fais depuis que tu as arrêté le hockey?
Oui, depuis que j'ai arrêté le hockey, j'avais un de mes amis qui travaillait dans une mine au nord du Québec, puis il m'avait demandé si je serais intéressé à aller faire un remplacement dans son département qui était l'entrepôt, puis j'étais allé là, puis après ben, ça a déboulé, ça fait déjà 21 ans que je travaille dans les mines.
Et est-ce que tu assistes des fois à des matchs du Canadien?
Oui, 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 j'y vois, parce que mes garçons, c'est des fans du Canadien, puis on y va de temps en temps, là, par saison, on y va 3-4 fois. Là.
OK, donc, puis on t'a vu, je pense, dans les célébrations, quand il y a des célébrations avec le club de 93, là, tu essaies d'être là aussi, là.
Oui, oui, j'ai été là les deux dernières fois qu'il y a eu des célébrations, j'étais allé.
Peux-tu croire qu'il n'y a pas eu de coupe cette année depuis 93? Est-ce que tu es aussi étonné que nous?
Certainement. Surtout même qu'il n'y a aucun club canadien qui l'a gagné, c'est encore plus surprenant. Tu sais, je sais pas, ça l'amène comme des questionnements, savoir pourquoi.
Ça, c'est une très bonne question, pourquoi?
Ouais.
on se demande cette question-là, André, depuis très longtemps. Ben écoute, André Racicot, tu t'es rendu là. T'as été un joueur de la Ligue nationale de hockey. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été capables de faire ça. Toi, tu l'as fait. Et ben tu t'es retrouvé avec une bague. Et puis, on ne pourrait jamais t'enlever ça. Alors, merci beaucoup pour les souvenirs. Et surtout, merci beaucoup pour ton temps ce matin.
Ben, merci beaucoup.
Merci. André Racicot, ça a été un plaisir, vraiment. Une belle discussion. Nous, on va aller faire une petite pause. Et on se retrouve immédiatement après.